Sommes de retour avec Benoît Duclos. Comment ça va, Benoît?
Bon matin, Michel, ça va bien.
Tabarouette, on a un sujet un lundi ce matin. J'écoutais José qui nous parlait du sujet de discussion avec le Doc Mailloux. On va parler de la mort aujourd'hui.
Ben oui, j'écoutais ça dans la voiture, moi aussi. J'ai dit finalement, sans trop se parler, tout le monde, partout dans le réseau Cogeco, on arrive avec des sujets qui se complètent un peu.
Oui, qui se complètent un peu, effectivement. Dans ton cas, tu veux nous parler de mourir sans testament. Puis ça, ben, tu sais, quand on est jeune, on pense pas que c'est nécessaire.
Ben, Michel, ça nous arrivera pas. Savez-vous à qui je m'adresse principalement ce matin, c'est dès que vous avez un enfant, là, c'est-à-dire qu'un accident de voiture, un accident de moto, un accident de bateau, même une crise cardiaque dans la quarantaine, c'est des choses qui arrivent. Là. Donc, faut jamais... comme on dit, il n'y a pas un risque aussi élevé, évidemment, que de décéder à 88 ans. Mais à la fin de la journée, les personnes âgées, on dirait que pour une raison ou une autre, ont plus de temps de penser à tout ça. Vont s'asseoir la plupart du temps. Des fois, vont faire un testament. Puis là, tu es surpris quand tu vois ça dans ton bureau. Parce que c'est à peu près le premier testament qu'ils ont pu faire. Parce qu'on a des fois un peu le registre, tout ça. Et la personne est décédée à 80 quelques années. Donc, c'est là qu'on réalise bien souvent que plus jeune, c'est quelque chose dont on ne s'occupe pas. Et les conséquences peuvent être désastreuses, surtout ici au Québec, où le statut de simple conjoint de fait est à peu près pas reconnu, à part pour certaines prestations de type que je qualifierais de social. Là. Mais au niveau du Code civil, là, je veux dire, on ne fera pas tout ce débat-là ce matin. Et ma collègue en droit de la famille, Geneviève, pourra vous en parler plus. Elle l'a déjà fait plusieurs fois dans le passé, mais il n'y a pas vraiment de statut. Donc, à partir du moment où il y a un décès, il faut se souvenir que si vous êtes des conjoints non mariés, il peut y avoir des impacts encore plus graves sur le trouble que vous laissez en arrière. Pas juste une question. Là, je ne parle pas juste de financière, mais d'une question. Dès que vous avez un peu d'actifs, c'est un paquet de troubles. Puis je me suis dit ce matin, si on pouvait au moins allumer certaines de ces réflexions-là pour dire, ben écoute, là, le quelques centaines de dollars que ça coûte...
grosso modo, là, un testament, ça coûte à peu près là, une moyenne. Là. Ben, c'est pour monsieur, madame, tout le monde, normal.
Je vais vous dire, nous autres, on n'en fait pas au cabinet. J'en ai vu un peu de tous les prix. Donc, tout dépendamment de la complexité, là, mais je voudrais pas non plus insulter mes amis notaires en sortant un prix ce matin. Là, mais tu sais, entre 6 et 1200, dépendamment, là, je suis convaincu qu'on est capable d'en avoir
exact.
Un. Donc, c'est pas... comment dire? Ça dépend d'une question de complexité. Des fois, est-ce qu'on fait le couple tant qu'à faire? Il y a un paquet de choses comme ça. Donc, à la fin de la journée, là, informez-vous, trouvez-vous un notaire compétent et faites-le. Si ça peut vous rassurer, oui, on peut le faire même faire par un avocat, on peut le faire nous-mêmes à la main, etc. Mais je suis avocat et je l'ai fait faire par un notaire. Pour la raison est la suivante, c'est que ça va être beaucoup plus simple au moment du décès. C'est pas une question de capacité. Là. Je suis capable d'écrire un testament demain matin et probablement beaucoup de nos auditeurs aussi. Le problème, c'est qu'au moment du décès, on ne veut pas avoir à procéder par tout le processus d'homologation. En anglais, il a fait ça « to probate a will ». Mais au Québec, on a le même processus qui est de faire homologuer, faire dire ben, « est-ce que c'est bel et bien le bon testament,
c'est
le dernier testament devant les tribunaux », ce qui prend du temps, coûte de l'argent. Fait que finalement, ce que j'essaie juste de vous expliquer, c'est que vous êtes aussi bien d'en avoir un tout de suite. De cette façon-là, vous allez sauver du temps, des démarches, etc. au moment du décès. Mais au-delà de ça, ce qui est encore plus important, ça, c'est plus au niveau la paperasse est inutile. Lorsqu'on décède, on ne veut pas laisser de problèmes qui étaient facilement gérables avant, mais des problèmes beaucoup plus graves que ça. Je vous donne un exemple. Je vais faire quelques petits scénarios, Michel. Dire, qu'est-ce qui se passe si vous mourrez demain matin et voici selon votre situation, qu'est-ce que
ça
donne?
Bon. Ça,
parce que le Code
bon.
Civil prévoit, c'est le Code civil qui va s'appliquer. Hein. Soit dit en passant, vous mourrez demain, vous n'avez rien prévu, là. Tous vos héritiers vont devenir vos liquidateurs, techniquement, co-liquidateurs. Donc, c'est ce que le code prévoit. Et par la suite, ces gens-là vont devoir s'entendre ou trouver une façon de s'entendre, au pire s'adresser aux tribunaux pour trouver un seul liquidateur au besoin, ou etc., afin de donner suite à vos dernières volontés. Mais là, on n'a pas de testament. Donc, qu'est-ce que ça donne? C'est le Code civil qui va le prévoir. Et je vous le dis tout de suite, le cours de droit des successions à la faculté de droit, il faut avoir beaucoup de pognes par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il y a toujours un monsieur qui avait vraiment pas beaucoup de monde dans sa vie, mais un petit arrière-cousin. Ce matin, là, j'y vois beaucoup plus avec ce qu'on voit, là. Donc, évidemment, là, on est marié, puis on a, puis j'ai des enfants. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes marié, vous avez deux enfants de 4 et 6 ans. Demain matin, si vous n'avez pas de testament, votre mari, OK, va hériter de quelle quantité, vous pensez? Puis vos enfants? Michel, c'est une...
100%.
Non, le mari, un tiers. Les enfants, deux tiers.
Oh, OK, tu veux la séparer. OK, les enfants, deux tiers, puis le mari, un tiers. Tiers.
OK, ou correct. La femme, évidemment. Oh, là. Oui. Donc, ça vous donne une idée. Ce que ça signifie, c'est que si on a 150 000 $ d'actifs au moment du décès, on a, je ne sais pas, moi, 36 ans, deux enfants de 4 et 6 ans, 150 000 $
On n'a pas de testament.
Pas de testament. Il y a 50 000 qui s'en va, exemple, à madame. Là,
oui, 100 000 aux enfants.
Et à ce moment-là, il va falloir faire gérer ce patrimoine-là par la suite avec toutes les dispositions de la curatelle ou de la tutelle aux mineurs.
Ouais.
Plutôt, donc à ce moment-là, c'est un chiard, comme dirait l'autre.
Ouais,
c'est pas très agréable.
Non.
J'ai un conjoint avec qui je ne suis pas marié.
Okay.
Et unicivivant, et j'ai des enfants.
Ouais.
Donc, comme beaucoup de nos auditeurs ce matin, on a deux enfants.
On vit ensemble, vie commune depuis longtemps. On a deux enfants, mais on n'est pas marié.
Donc, à ce moment-là, qui hérite? Les enfants à 100%, Michel.
100%. Donc, le conjoint pas marié ou la conjointe pas mariée a rien.
Absolument rien. À part ce qui lui appartenait déjà, il y en a qui vont dire, ben oui, mais j'ai la moitié de la maison. Ben oui, c'est parce que c'est sur les titres de propriété que tu étais déjà copropriétaire. Mais au-delà de ça,
ouais,
non.
Au-delà de ça, la table de cuisine, c'était moi, ma laveuse, ma sécheuse, puis la voiture.
En voulez-vous une meilleure? On prend le même principe. La nouvelle conjointe ou la conjointe actuelle avec qui tu as un enfant, exemple, mm-hmm. versus l'ancienne conjointe avec qui tu en as eu deux.
Ouais.
Donc là, à ce moment-là, ces deux conjointes-là n'héritent pas, mais ont intérêt à ce que les enfants héritent du plus possible.
C'est sûr.
Une aux deux tiers, l'autre au tiers. Vous avez une idée des petites dissensions que cela peut créer, surtout quand vient le temps d'évaluer la valeur de la maison dans laquelle restait la nouvelle conjointe. Pas de testament, là, quand je vous dis que c'est un petit peu de trouble, là, ceci est juste un exemple.
Donc, c'est
juste pour vous dire que c'est pas tellement agréable. Ensuite de ça, si vous n'avez pas de conjoint, quand je parle de conjoint, là, c'est au sens marié du terme. Là.
C'est ça, un chant de conjoint, le compagnon de vie dans la même maison.
Non, je vais reprendre. Tous les exemples, quand j'ai dit si vous n'avez pas, un simple conjoint, c'est un simple conjoint. Mais si vous êtes marié, OK?
Ouais.
Mes derniers exemples, c'est les enfants qui héritent de tout, c'est parce qu'on n'est pas marié.
Okay.
Ou unis civilement, mais c'est par contrat. Là,
je comprends.
On s'entend?
Ouais.
D'union civile qui est prévue au Code civil. Sinon, là, monsieur, madame, tout le monde qui est en couple depuis 10 ans, vous n'êtes pas visé, si j'ai pu dire là, il y a 30 secondes, j'ai un conjoint. Si j'ai un mari, on va plutôt dire ça, ou une épouse, là, OK? Avec qui je suis marié, j'ai des parents, mais j'ai pas d'enfant. Demain matin, là, moi, j'ai pas d'enfant, mais je suis marié.
OK, j'ai pas d'enfant, je suis marié, j'ai des parents.
J'ai des parents. Qui hérite?
Ben, l'épouse.
Non, conjoint deux tiers, parents un tiers. Donc, si moi, j'étais marié, exemple, j'ai pas encore eu d'enfant, mais j'ai un petit peu d'argent, quoi que ce soit, je meurs d'un accident d'auto, j'ai 28, 30 ans, je sais pas, j'ai pas eu d'enfant.
La femme a deux tiers.
Oui, et papa, maman, un tiers. Et entre eux, s'il reste juste un papa ou une maman parce qu'un des deux est décédé, l'autre prend la moitié, prend la part. Donc, c'est le tiers s'en va à cette ligne-là.
Wow.
Donc, à ce moment-là, c'est pas un sixième à ce moment-là, c'est un tiers plein pour les parents survivants, le ou les parents survivants.
Je comprends.
Fait que c'est intéressant à savoir. Là. Je donne un exemple.
Oui.
J'ai un conjoint, mais avec qui je suis pas marié, donc, ou initialement.
Ouais.
J'ai plus de parents. J'ai pas de parents, ou j'ai plus de parents, et je n'ai pas. Je suis marié.
Mm-hmm.
Je m'excuse, c'est parce que j'avais fait mes exemples avec les codes, avec ce qu'il y a dans le code civil, mais en réalité, pour nos auditeurs, c'est plus simple comme ça. Donc, je suis marié, OK? J'ai pas d'enfant, j'ai pas de parents. À ce moment-là, qui hérite?
Je suis marié.
Je suis marié.
J'ai pas d'enfant, pas de parents.
Mes parents sont décédés.
100% d'épouse?
Non. Conjoint deux tiers, frère et sœur un tiers.
Ah, ouais.
Ouais. Fait que ça, c'est le code civil. Ça vous donne juste une idée, là. Tu sais, si on continue, là. Je ne suis pas marié, OK? J'ai des parents, j'ai des frères et sœurs. À ce moment-là, ce que ça va donner, je te vends le punch,
50-50?
Là. 50-50. Le groupe frères et sœurs et le groupe parents.
OK.
Tu sais, ça vous donne ça vous donne une idée. Ensuite de ça, si vous n'êtes pas marié, OK, vous n'avez pas d'enfants, vos parents sont décédés, vous n'avez pas de parents, vous avez des frères et sœurs, 100% frères et sœurs.
Ça peut faire 25 ans que vous n'avez pas parlé à votre frère et sœur, vous n'entendez pas, c'est un autre quand même.
Oui, puis ça fait 25 ans que vous êtes avec la même femme ou le même homme, mais vous n'êtes pas marié.
Bon point.
Ben, c'est fini, c'est le frère qui vit.
Là, tu m'interpelles pas à peu près. Là. C'est important.
Mais
que
non,
les
mais quand je vous dis que c'est important, là, les gens ne le réalisent pas.
De prévoir tout ça. Là.
Oui, mais c'est simple, c'est pas compliqué, mais faites-le. T'sais, c'est le genre de choses où est-ce que ça nous tente autant que d'aller chez le dentiste, bien souvent, parce que parler de la mort, c'est tabou, évidemment. C'est pas quelque chose auquel on aime parler. Faites-le juste une fois. Et n'oubliez surtout pas aussi l'autre chose. Encore pire que ça, c'est un testament qui n'est pas à jour. C'est-à-dire que si, pour une raison ou une autre, on a fait un testament et qu'on a nommé notre ex comme étant la seule, la seule héritière, et qu'elle n'était pas votre femme, et que vous décédez, ben ça serait bien que ça aurait été modifié avant, parce que sinon, ça peut avoir des conséquences que vous pouvez imaginer qui sont assez... peut-être pas ce qu'on aurait voulu. Il peut arriver de certains cas où, exemple, on se dit, bon, oui, c'est mon ex, mais demain matin, j'ai un enfant avec, puis de toute façon, bien correct, là, ça ne marchait plus, mais c'est bien correct, puis ça ne me dérangerait pas que cette personne-là hérite, parce que de toute façon, elle va bien gérer l'argent, puis ça va être l'argent de mon garçon, ma fille, peu importe. Ça peut arriver des circonstances comme ça. Ça peut arriver. Ouais. Puis je suis pas en train de vous dire de déshériter.
Non.
De déshériter tous vos ex non mariés ou etc. Mais à partir du moment où il y a un changement majeur dans votre vie, ben assurez-vous d'aller prendre un rendez-vous chez le notaire. Ça fait partie des coûts de transition et de changement en ce qui me concerne. Puis c'est assez important parce que, je vous le dis, là, ça peut laisser des problèmes. De vous choisir également un liquidateur, mais pas un liquidateur pour faire plaisir. De choisir le meilleur liquidateur qui va être la personne la plus efficace, compétente, fair, etc. Là. Laissez-vous pas... c'est pas sentimental, ça. Ça, c'est le genre de décision que vous prenez.
C'est pas de l'émotion.
Non. C'est sûr que si vous avez une conjointe qui est bien correcte, qui connaît tous les us et coutumes du couple, il n'y a pas vraiment de raison nécessairement de ne pas nommer. Là. C'est pas ça que je vous dis. Mais dans une situation, exemple, vous êtes séparés, vous avez des enfants, ça ne va pas nécessairement super bien avec le papa ou la maman de ces enfants-là. Ben, à ce moment-là, de nommer un liquidateur avec qui vous pensez que ça ne sera pas la guerre, mais qu'en même temps, qui va s'assurer là, que le patrimoine de nos enfants soit protégé. Il faut penser à ça aussi. Donc, je m'excuse ce matin d'avoir un sujet un petit peu plus... un peu moins agréable en cette belle journée ensoleillée. Mais
en même temps, ce sont des choses importantes. Il faut les adresser. Puis si aujourd'hui, on retient quelque chose, pas le fun d'aborder la mort, mais il m'a dit une affaire, c'est encore bien pire si tu t'en vas puis que tu laisses tes affaires pas en ordre.
Oui,
c'est aussi bien partir ordonné.
Encore une fois... Je me répète, les pires dossiers que j'ai vus, c'est des gens qui étaient pas prévus qu'ils meurent. Un accident, crise cardiaque, dans vingtaine, trentaine, quarantaine, exemple, qui avait aucune raison de croire, cinquantaine aussi, mais je veux dire, plus on est jeune, plus c'est imprévisible. Et lorsque nos papiers sont pas en règle, croyez-moi, ça fait un beau bordel.
Benoît, merci beaucoup. Encore une fois, on se retrouve la semaine prochaine. Benoît Duclos du cabinet des avocats, l'hôtelier Gosselin Duclos. Wow! Honnêtement, là, je sais pas pour vous, moi, ça m'interpelle beaucoup, cette situation-là.